de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Vice-président a salué l'opportunité de coopération sur la certification halal entre l'Indonésie et le Vietnam. Première ministre française Elisabeth Borne démissionne. Contrat de phase 3 en vigueur, l'Indonésie achète officiellement 42 avions de combat français. Ministère australien de l'agriculture remet plus de 500 000 vaccins LSD à l'Indonésie. La Commission électorale générale de l'Indonésie, KPU, fixe le jour bureau de vote à l'étranger. 10e Forum mondial de l'eau crée des opportunités d'investissement. Et Observateur affirme qu'une synergie triple hélice est nécessaire pour ouvrir la route coupant Dili-Darwin. Mon cher auditeur, voici les nouvelles incomplètes. Le vice-président indonésien Maruf Amin a salué l'opportunité de coopération entre l'Indonésie et le Vietnam concernant la fourniture de certifications halal. C'est ce qu'a déclaré le vice-président en répondant aux questions des médias concernant le désir du gouvernement vietnamien de collaborer avec l'Indonésie dans le domaine de la certification halal. L'ambassadeur vietnamien en Indonésie, Ta Van Thong, a exprimé qu'il y a quelque temps son désir de coopération lors d'un communiqué de presse après avoir examiné le programme d'aide à la stimulation du logement autonome BSPS et remis l'assistant social du Basnas à la communauté à Sleman, région spéciale de Yogyakarta, mardi 9 janvier. Le vice-président Maruf Amin a déclaré qu'il existe deux options concernant la certification halal.
Saya kira keinginan Vietnam ini akan kita respon. Ada dua. Apa mereka hanya menjadi.
Je pense que nous répondrons aux souhaits du Vietnam. Il y en a deux. S'agit-il simplement d'une sorte d'agence de gestion qui fournit des certifications en Indonésie ou ont-ils également une agence qui effectue sa propre certification? Nous seuls fournissons des conseils et de la reconnaissance. Le Vietnam peut choisir entre les deux. Le vice-président Maruf Amin a déclaré qu'il encouragerait le gouvernement vietnamien à communiquer avec l'agence organisatrice de la garantie des produits halal, BPJPH, en Indonésie. Le vice-président a expliqué que l'Indonésie a eu divers formes de coopération dans le domaine de la charia avec un certain nombre de pays, notamment en Corée. Il existe une institution halal sous le nom de INI Halal Indonesia. C'est Halal de l'Indonésie. Et à Shanghai, en Chine, sous le nom de Al-Amin. La première ministre française, Elisabeth Borne, a démissionné de son poste. C'est le contenu du message publié par le président français Emmanuel Macron sur la plateforme de médias sociaux X, mardi 9 janvier, tel que rapporté par l'agence de presse TASS. Macron a accepté la démission d'Elisabeth Borne et l'a remercié pour son dévouement et sa détermination au sein du gouvernement. Elisabeth Borne dirige le cabinet français depuis mai 2022. Selon l'Élysée, Borne et les autres membres du cabinet continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Entre-temps, cité par l'agence de presse AFP, le même jour, Macron a nommé Gabriel Attal comme nouveau premier ministre français, faisant de Gabriel le plus jeune premier ministre de l'histoire de France. Le ministère indonésien de la Défense a officiellement acheté 42 avions de combat Rafale fabriqués par le français Dassault Aviation. Après que le contrat d'achat de la troisième phase pour les 18 dernières unités soit entré en vigueur cette semaine. Comme l'a rapporté l'agence de presse Antara, le chef du bureau des relations publiques du secrétariat général du ministère de la Défense, le général de brigade de l'armée nationale indonésienne Edwin Adrian Sumanta a déclaré mardi 9 janvier à Jakarta que le contrat effectif était la base de Dassault Aviation pour commencer à produire les 18 dernières unités d'avions de combat Rafale commandées par l'Indonésie. Il a déclaré que le premier avion Rafale commandé par l'Indonésie devrait arriver en Indonésie au début de 2026. Le général de brigade Edwin espère que l'arrivée de l'avion de combat Rafale et de ses armes et équipements de soutien augmentera considérablement la force et l'état de préparation de l'armée de l'air indonésienne. Dans la protection de la souveraineté aérienne du pays, Dassault Aviation a également annoncé la troisième phase du contrat d'achat du Rafale à compter de lundi. Eric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation, a déclaré que l'Indonésie avait officiellement acheté les 42 avions de combat. Eric a déclaré que son parti était pleinement engagé à assurer le succès de ce partenariat. Eric pense également que cet achat peut aider l'Indonésie à devenir une puissance majeure dans la région. Le ministère australien de l'Agriculture, des Pêcheries et des Forêts a remis lundi 8 janvier 500 000 vaccins contre la dermatose nodulaire, LSD, au ministère indonésien de l'Agriculture. Dans un communiqué de l'ambassade d'Australie mardi 9 janvier, le directeur de la santé animale au ministère de l'Agriculture, le docteur Nouriani Zainuddin a déclaré que le contrôle du LSD en Indonésie était une priorité commune. Selon elle, le LSD et la fièvre aphteuse constituent des menaces importantes pour la biosécurité. Zainuddin a poursuivi qu'il est très important pour son parti de continuer à améliorer les progrès réalisés jusqu'à présent pour contrôler l'épidémie. Pendant ce temps, le représentant de l'ambassade australienne pour l'agriculture, Dan Roberts, s'est dit heureux que le don de vaccins puisse aider l'Indonésie à vaincre le LSD. L'Australie a fourni un total d'un million de doses de vaccins LSD à l'Indonésie au cours de l'année écoulée. Cela portait la contribution totale de l'Australie de 2022 à 2024 à 1,435 millions de doses de vaccins. La Commission électorale générale de l'Indonésie, KPU, a déterminé le jour et la date du vote dans les bureaux de vote à l'étranger, TPSLN, pour l'élection générale du président et du vice-président, ainsi que des membres du Conseil représentatif du peuple, simultanément en 2024. C'est ce qu'indique le décret KPU numéro 1811 de 2023 concernant la détermination des jours et des dates de vote dans les bureaux de vote à l'étranger en 2024, qui a été reçu mercredi à Jakarta. Cette décision entrera en vigueur le vendredi 29 décembre 2023. Les jours d'élection à l'étranger sont du lundi 5 février au mercredi 14 février 2024. Le 5 février 2024, le scrutin aura lieu à Hanoï et à Ho Chi Minh. Entre-temps, le vote du 14 février a eu lieu, entre autres, à Madagascar et à Pékin. Adjoint à la coordination de la gestion de l'environnement et des forêts au ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Kemenko Marves Nani Hendiarti a déclaré que la tenue du 10e Forum mondial de l'eau en mai 2024 à Bali pourrait créer des opportunités d'investissement pour le développement des infrastructures hydrauliques. Nani Hendiarti, lors d'une conférence de presse en ligne suivie depuis Jakarta mardi, a expliqué que pour atteindre l'objectif d'accès à l'eau potable sûre, juste et abordable pour tous les niveaux de la société en 2030, des fonds supplémentaires d'environ 1,7 billion de dollars américains sont encore nécessaires. Nani Hendiarti a expliqué que lors des prochaines activités du 10e Forum mondial de l'eau, des réunions d'affaires auront également lieu avec des partenaires stratégiques pour discuter de la coopération potentielle et des investissements liés au développement des infrastructures hydrauliques. Le 10e Forum mondial de l'eau se tiendra du 18 au 24 mai 2024 à Bali sur le thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Dans ce forum, il y a trois discussions portant sur trois thèmes, à savoir thématiques, politiques et régionales. L'observateur économique du STIE Omatonis Kupang, Thomas Langodai, a suggéré qu'une synergie triple hélice doit être construite entre les discours concernant la découverture de la route aérienne Kupang-Dili-Darwin. Comme cité par Antara, Thomas à Kupang, Nusa Tenggara Oriental a déclaré mardi 9 janvier que ce grand discours devait être salué. Selon lui, cela est lié au monde globalisé et la demande de connectivité entre les pays ne peut plus être évitée. La route aérienne de Kupang-Dili était ouverte avant la pandémie de COVID-19, mais après environ 2 ans, la route a été interrompue en raison de la pandémie. Pendant ce temps, la route aérienne Kupang-Darwin était autrefois desservie par la compagnie aérienne Merpati, mais en 2002, elle s'est soudainement arrêtée. Thomas a proposé que la triple hélice soit réalisée dans 3 pays, dont l'Indonésie, le Timor-Leste et l'Australie, avec la participation du gouvernement provincial de Nusa Tenggara Oriental, des hommes d'affaires et des universités. Selon lui, il faut un engagement fort de la part des trois pour réaliser une étude de faisabilité concernant les opportunités post-pandémiques et les prix des billets. L'ancien régent adjoint de Lembata a estimé que si l'itinéraire aérien était effectivement réalisé, un effet domino se ferait sentir dans tous les secteurs des biens et services, à l'éducation et au tourisme. Bon, chargé et tard, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Souvenir de l'action Tritura » avec moi Audrey. Chers auditeurs, après la défaite du mouvement du 30 septembre 1965, une rébellion qui voulait renverser le gouvernement légitime, la société indonésienne est devenue de plus en plus agitée. La question de la rébellion communiste a vraiment perturbé la vie des gens. Les prix des produits de première nécessité ont fortement augmenté. Le gouvernement de l'époque semblait dépassé et incapable de faire grand-chose. La situation turbulente de l'époque a incité les étudiants universitaires à descendre dans la rue, exprimant les inquiétudes de la population. Une manifestation à grande échelle à Jakarta le 10 janvier 1966 fut l'apogée du mouvement étudiant. Ils ont publié la Tritura ou les trois revendications du peuple. Premièrement, la dissolution du Parti communiste indonésien PKI. Deuxièmement, la dissolution du cabinet du Kora. Troisièmement, des prix plus bas. Le mouvement étudiant à Jakarta a rapidement donné lieu à des protestations étudiantes dans diverses autres régions d'Indonésie. Tritura est un moment historique dans la vie du peuple indonésien. Tritura a ouvert la voie à un changement de gouvernement avec la formation du nouvel ordre avec Suharto comme président remplaçant Sukarno. Le mouvement Tritura continue d'inspirer la jeune génération et de continuer à exprimer les préoccupations de la population. Le mouvement étudiant a également contribué à renverser l'ordre nouveau et à donner naissance à la réforme. Beaucoup de choses ont été améliorées au cours de la période de réforme, notamment les lois, l'administration gouvernementale et la communication entre le gouvernement et le peuple. Pour cette raison, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de manifestations étudiantes à grande échelle dans toute l'Indonésie exigeant des améliorations, même si des manifestations sporadiques ont lieu de temps en temps. Cependant, cela ne signifie pas que de grands mouvements comme Tritura ne peuvent pas se reproduire car la jeune génération a toujours été l'agent de contrôle de temps en temps. L'Indonésie fait actuellement face à des élections pour élire le président et le vice-président ainsi que les membres du Parlement indonésien, Parlement régional de l'Indonésie et Conseil des représentants de la région qui auront lieu le 14 février 2024. Celui qui sera élu doit être prudent et capable de diriger afin que de graves troubles ne surviennent pas dans le pays. Qu'elles soient liées à des questions économiques, politiques ou autres, pour qu'il ne soit pas nécessaire de manifester massivement pour exiger un changement. Bon, cher Joëtard, c'est tout. Le commentaire.
C'est Joëtard, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 janvier 1966, manifestation étudiante exprimant Tritura. Après les troubles politiques de septembre 1965 et la question du communisme qui a frappé l'Indonésie, des milliers d'étudiants membres de l'unité d'action étudiante indonésienne, KAMI, ont organisé une manifestation à grande échelle le 10 janvier 1966 qui a débuté à Jakarta. Cette action exprimait la Tritura, les trois revendications du peuple. Ces revendications incluent premièrement la dissolution du Parti communiste indonésien, deuxièmement un remaniement du cabinet de Wikora et troisièmement en baisse de prix. Ces actions qui seront ensuite étendues à toute l'Indonésie ont finalement contraint le président Sukarno à publier un arrêté 11 mars qui déléguait les pleins pouvoirs au lieutenant général Suharto qui prendrait des mesures pour rétablir la situation dans toute l'Indonésie. Passons maintenant à l'événement du 10 janvier 1993, la journée du mouvement d'un million d'Albre. La journée du mouvement d'un million d'Albre est célébrée chaque 10 janvier. En Indonésie, le mouvement un million d'Albre a été initié par le président Suharto le 10 janvier 1993. Dans son discours, le président Suharto a invité tous les niveaux de la société à participer au mouvement d'un million d'arbres, à savoir planter plus d'un million d'arbres dans chaque province. Cette journée est un effort pour sauver les forêts et préserver l'environnement, ainsi que pour surmonter le problème du réchauffement climatique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 janvier 2014. L'aéroport Halim Perdana Kusuma a été ouvert pour les vols commerciaux. L'aéroport international Halim Perdana Kusuma est l'un des aéroports de Jakarta. ngutulis egalamang sa pok kom kartio general du commandement des opérations de force aérienne de l'armée nationale indonésienne. Cependant, l'aéroport est devenu commercial le 10 janvier 2014 avant de réduire le fardeau de l'aéroport international Soekarno-Hatta qui était de plus encombré. CityLink est la première compagnie aérienne à opérer à l'aéroport Halim Perdana Kusuma. C'est aujourd'hui, c'est l'histoire de Zulu pour ce soir.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja harus bagaimana kan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu haruskah ku sendiri menahan rasa
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Saya cerita ke Bong Suar, buat si Bong Indonesia yang purleti teka ang restokan Indonesia yang prezang adubai e debyang ang moyang de promosyong efikas at khabir de la diplomasi kuliner. Le restokan Indonesia ang anggrang potensial pour devenir partenaire du ministère du tourisme et de communicatif dans le développement du programme Indonesia Space Up the World afin qu'il puisse être utilisé pour promouvoir le tourisme Indonesia. Saya sekarang terasmi dalam menisikan dua tugas milik kemen kreatif di Republik Indonesia, Sandiaga Uno, lor dan visit di Terkabai, Adubai, Emirat Arab Uni, samdi, 6 janvier 2024. Komisite Pak Kemen Paragraf Puang Go Puang Ide, le menisikan Sandiaga apresia langsiang elef di Institut Nasional Hotelier Politeknik dua tugas mo, Poltek Par NHI, A Bandung, Arianto kia uber ang restoran Indonesia Adubai Ozemirat Arab Uni selong Sandiaga Ilsazi dan banyak efikas de promouvoir le tourisme ekonomi kreatif indonesien à travers la diplomatie culinaire. Cette appréciation a été exprimée par le ministre Sandiaga lors de sa visite à Arianto Asian Fusion qui est l'œuvre dans siang zélef de l'Institut National Hôtelier Polytechnique du Tourisme qui se sont réunis à Dubaï pour créer un centre pour l'économie créative indonésienne. Le ministre Sandiaga a expliqué que le ministère du Tourisme et de l'économie créative encourage davantage des jeunes et diasporas indonésiennes à être optimistes quant au développement de l'entreprise culinaire afin qu'elle puisse encourager la création d'emplois dans la communauté. Sandiaga également a déclaré que la présence de ces restaurants indonésiens a également reçu une réponse positive au sein de la communauté locale. Parce que divers aliments indonésiens sont très populaires à l'étranger et peuvent être combinés avec les goûts des résidents locaux. Dans son explication, le ministre Sandiaga a également conseillé à la jeune génération et à la diaspora indonésienne de ne pas hésiter à démarrer une entreprise culinaire à l'étranger. Sandiaga espère que de nombreux jeunes Indonésiens diplômés de l'Institut National Hôtelier Polytechnique de Tourisme et des diplômés d'autres universités seront inspirés par le succès de Arianto dans sa capacité à fournir des nourritures de qualité. Le ministre Sandiaga est optimiste qu'à l'avenir, il y aura davantage de jeunes entrepreneurs culinaires qui pourront relancer l'économie indonésienne et devenir des champions non seulement dans leur pays, mais aussi à l'étranger. Citant tripadvisor.co.id, il existe plusieurs restaurants indonésiens à Dubaï qui servent une variété de plats indonésiens, tels que le restaurant Dapur Kita, Indo Indo, Little Bali et le restaurant Selera. Saya Zurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Mengapa rindu hatiku? Semakin ku menjauh, semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, Sumber Sira est un lieu touristique qui peut surprendre et permettre à chaque visiteur de se sentir chez lui. L'attraction touristique Sumber Sira est située dans la ville de Malang, sous la forme d'une piscine dotée de sources naturelles aussi claires que d'ouvert. Sumber Sira présente une beauté naturelle sous-marine époustouflante, tout comme à Raja Ampat. Le site touristique de Sumber Sira offre un concept sous-marin supérieur à Malang dans l'est de Java. Sumber Sira propose des services de plongée en apnée dans une eau douce, claire et naturelle. L'attraction touristique naturelle accueille tous ses visiteurs avec des bains provenant de sources naturelles à l'eau claire comme du cristal. De nombreux visiteurs capturent souvent l'attraction touristique des eaux aquatiques à Sumber Sira, Malang, avec des photos, car la vue est magnifique et évidemment instagrammable. Situé dans une zone rurale, Sumber Sira conserve une belle atmosphère naturelle, ce qui le rend idéal pour se détendre et se sentir au calme loin de l'agitation de la ville. Voyager à Sumber Sira combine deux expériences uniques, à savoir la plongée en apnée en eau douce et la sensation d'être au fond de l'océan. Il y a plusieurs choses intéressantes de Sumber Sira. L'attraction touristique Sumber Sira est la destination idéale pour ceux d'entre vous qui aiment des activités telles que la plongée et la photographie. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
manisnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku merasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang membuat kecewa di hatimu. Lupakanlah saja diriku. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous! On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Naomi, une guide touristique dans un hôtel de Pangkalan Bun, dans le centre du Kalimantan. Chris informe Naomi de ses habitudes. Bonne écoute.
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées « Saya selalu bangun pagi ». Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Je me lève toujours tôt. Saya. Saya, je. Selalu. Selalu, toujours. Bangun. Bangun, se lever. Berangkat. Berangkat, partir. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Tôt. Melihat. Melihat, voir. Orang-utan. 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 Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pas de problème. Kalau begitu. Kalau begitu, donc. Mari. Mari. Allons. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration « Saya selalu bangun pagi ».« Saya selalu bangun pagi ». »« Je me lève toujours tôt ». Dans cet énoncé, il y a l'adverbe « selalu ».« Selalu », »,« toujours ». Ce qui signifie qu'il fonctionne pour marquer des activités qui sont devenues une habitude. Dans cette déclaration, l'activité habituelle de Chris est bangun pagi, bangun pagi. En français, se réveiller tôt ou se lever tôt. Chers amis, écoutons un autre exemple d'utilisation de l'adverbe selalu, selalu, toujours. Pour marquer une activité devenue une habitude. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. Je prends toujours mon petit déjeuner avant 8 heures. Chris selalu membawa motornya ke manapun. Chris selalu membawa motornya ke manapun. Chris emmène toujours sa moto partout. Chers amis, pour exprimer des informations temporelles, il existe plusieurs expressions couramment utilisées par les Indonésiens. Ces expressions incluent dini hari, dini hari, tôt le matin, pagi pagi, pagi pagi, tôt le matin, siang bolong, midi, et larut malam, tard dans la nuit. L'expression de la description de l'époque a des nuances de sang, sangat, sangat, en français très ou trop. Chers amis, avant de terminer à apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Maaf, Chris. Kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu. Selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu, dan buatku terus memburu dirimu. Mati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau
Kau pun sudah tahu itu cintaku.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau. Ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu.
Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson régionale de la province Bengkulu, intitulée Ikan Pais. Chers amis, cette chanson raconte l'histoire de l'Ikan Pais ou Pendap Bengkulu, une sauce de poisson typique de Bengkulu. Dans les paroles, il est dit que le poisson païs est enveloppé dans des feuilles de taro. Le poisson païs est délicieux, avec du riz blanc chaud et de la sauce chili. C'est vraiment délicieux. Alors, j'en veux plus. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de la province Bengkulu intitulée Ikan Pais. Bonne écoute!
Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi di kebet tali mesiang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering mudo. Rasonyo habis segalo. Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi di kebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jerin mudo. Rasona tangguh rasonyo oi lemah nian barang keringe niti niti sambalnyo pede tangguh lagi abis segalo.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia. La voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.